Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour ce second volet de notre série entièrement consacrée cette semaine à Jacques Lacan, que nous avons intitulé « Encore », par référence à l'un des titres d'un de ses séminaires. Hier, vous avez peut-être entendu J.B. Pontalis qui parlait de la place de Lacan dans l'histoire de la psychanalyse. Demain, vous entendrez François Roustan qui parlera des contradictions de Lacan. Jeudi, comment parler Lacan avec Jean-Claude Milner, Luis Miranda et Bernard Bass. Vendredi, ce sera Lacan et la philosophie avec Jean-Luc Nancy et Anne Dufourmentel. Mais ce soir, c'est la révolution Lacan avec Jacques-Alain Miller. Jacques-Alain Miller qui fut l'élève de Jacques Lacan et qui établit depuis maintenant deux bonnes décennies les séminaires de Jacques Lacan. Et vous entendrez en fin d'émission Benoît Jacquot qui a filmé Jacques Lacan quand il était très jeune. La révolution Jacques Lacan, second volet de notre série.
Jacques-Alain Miller, finalement, vous êtes le seul à avoir aussi bien connu Jacques Lacan parmi toutes les personnes qui l'ont connu. Vous êtes le plus proche.
Je l'ai connu comme moi, je l'ai connu. Il y a beaucoup qui l'ont connu sous des angles différents, depuis beaucoup plus longtemps que moi. Je pense qu'à ma femme, Judith.
Fille donc de Jacques Lacan.
La
troisième fille.
Je pense à Thibault, le demi-frère de Judith. Évidemment, ils avaient une connaissance du docteur Lacan bien plus longue et à certains égards, sur certains plans plus proches, ses patients, dont certains sont restés avec lui très longtemps, aussi avaient de lui, le connaissaient sous des angles que j'ai ignorés, que j'ai soupçonnés, mais que j'ai entrevus. Donc j'ai bien connu un certain Jacques Lacan, celui qui est venu à l'école normale en janvier 64, à l'invitation de Louis Althusser, celui que nous a fait travailler Althusser juste avant. Moi, je n'avais jamais lu une ligne de Lacan. Je connaissais le nom de Lacan pour l'avoir lu dans un pamphlet de Jean-François Revel qui citait François Dolto, comparant Lacan à un dragon et Lagache à un autre dragon. Et Revel disait, tout de même, Freud n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour que François Dolto puisse comparer Lacan et Lagache à des dragons. Je ne connaissais que ça, de Lacan. Et Althusser m'a dit, écoute, tu devrais lire Lacan et ça te plaira et prépare un exposé à mon séminaire sur Lacan. Donc je l'ai écouté, je suis allé, à l'époque il y avait encore la grande librairie des presses universitaires de France sur la Sorbonne, à la Sorbonne, donc j'ai demandé qu'est-ce que vous avez de Lacan, ils avaient les six premiers numéros de la revue La Psychanalyse, j'ai emporté ça, je suis parti à la campagne, mon père avait à l'époque une maison du côté de Clairefontaine, dans la forêt de Rambouillet, je suis parti avec un ami qui s'appelait Yves Duroux, qui lui était agrégatif. Et alors, il y avait un étage, donc lui, il est resté au rez-de-chaussée, il travaillait Leibniz, je crois, je me souviens, enfin bon. Et moi, au premier étage, j'ai commencé à lire Lacan, le rapport de Rome. Et puis, on s'est vus au déjeuner, après avoir notre matinée de travail, je lui ai dit, je viens de lire quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu, je l'ai dit déjà, un coup de foudre intellectuel. Toutes les questions que je me posais, tout ce qui m'agitait, c'est-à-dire, moi, j'avais beaucoup pratiqué Sartre, j'avais lu assez tôt, dès que j'ai fini ma classe de première, on disait le plus grand philosophe français vivant, c'est Jean-Paul Sartre, donc je voulais lire L'être et le néant. J'ai lu L'être et le néant, qui n'était pas... Je ne comprenais pas tout, mais il y a beaucoup de descriptions qui sont extrêmement vivantes, etc. Donc sans être sartrien, j'étais capté, tout de même captivé par ça. Bon. Ensuite, en hypocagne et en cagne, on ne peut pas dire qu'on a le temps absolument de se cultiver dans les matières contemporaines, et tout ce qu'il faut absorber comme programme d'histoire classique, de latin, etc. Mais tout de même, je me souviens très bien, pendant les vacances, après être entré à l'école normale, j'avais lu Lévi-Strauss, j'étais fasciné par l'anthropologie structurale, je regrette qu'il ne soit pas dans le volume Pléiade, alors que ce sont des textes qui ont bouleversé, pour ce qu'elle vaut, mais enfin la pensée au XXe siècle. Je me souviens d'avoir lu La structure des mythes, chose qui aujourd'hui paraît très simple, c'était un coup de tonnerre. Et on aspirait à quelque chose comme ça, il y avait toute une aspiration à un peu de science, si je puis dire, une goutte de science dans l'océan de littérature et de critique, etc. Et donc, j'ai lu Lévi-Strauss, c'était La pensée sauvage qui sortait là, vous vous rendez compte, ce que c'est que de découvrir La pensée sauvage aussi. Et je voulais lire la théorie des ensembles, connaître la théorie des ensembles. Bon, évidemment, on n'enseignait pas du tout en hippocagne et en cagne. Et donc, j'ai acheté un livre que j'ai toujours, couverture jaune, chez Northoland, qui s'appelait « Abstract, cette théorie ». Bon, et je me demandais comment tout ça pouvait aller ensemble, la logique formelle, la philosophie, qu'est-ce que c'était que le sens. Bon, et au fond, en lisant le texte de Lacan de 53, qu'il présente lui-même comme fondateur de son enseignement, j'ai vu tout ça repris, en effet. C'est repris. C'est ce qu'a souligné Pontalis, d'ailleurs, qui a écrit des choses drôles, il faut dire, sur Lacan au début, que Lacan a pris un morceau chez Jacobson, un morceau chez Hegel, un morceau chez Lévi-Strauss, et que finalement, peut-être, qu'est-ce qu'il a inventé ? Bon. Mais justement, il avait pris ça, et il arrivait, d'une certaine façon, à intégrer ça. Il arrivait à... j'ai rencontré un soleil, j'ai rencontré une fusée, je suis tombé amoureux de son texte, de son discours, avant de le rencontrer, et avant de tomber amoureux de sa fille.
Ceci va avec cela ?
Non, c'était assez différent. Non, c'était assez différent, parce que quand il est venu à l'école normale en janvier, il y avait beaucoup de monde dans la salle du SAN, qui était plus grande que maintenant, il y avait 300 personnes. Au premier rang, pour nous, il y avait des bourgeoises, ce qui étaient les analystes, fort respectables de l'époque, mais enfin, en manteau de fourrure, tout ça. On ne comprenait pas. Beaucoup de mes camarades étaient de familles universitaires. Moi, j'ai une famille de médecins, mais on ne connaissait pas d'écrivains. Bon, qu'est-ce que c'était que ce monde ? Et on a voulu avoir un peu Lacan à nous. Donc, on l'a invité à un moment à venir dans une turne pour travailler sérieusement avec nous. Enfin, une turne, c'est une chambre à l'école normale. Travailler, répondre à nos questions, enfin, en dehors de, comme ça, de tout ce monde. Bon. Et le voilà qui arrive, c'était en mars, on peut retrouver, parce qu'il y a la trace dans le séminaire lui-même, qu'on lui avait posé une question sur telle formule, sur le transfert qu'il avait, le transfert et la mise en acte de la réalité sexuelle de l'inconscient. Plus tard, j'ai compris exactement où ça s'inscrit dans sa théorie, mais en fait, ça nous avait frappé comme quelque chose d'original, on le questionne, et lui-même, dans le séminaire, la semaine suivante, dit « j'ai eu l'occasion de percevoir que ma formule avait retenu l'attention ». Donc il est venu un soir, accompagné d'une créature qui était bronzée, drapée, qui était dans une robe blanche, plus une étole blanche, silencieuse, souriant, comme ça, très belle, et disant « c'est ma fille ». Et la réaction des normaliens que nous étions, c'était « on vient parler sérieusement, et voilà qui nous amène sa fille ». Bon, mais elle est restée muette tout le temps où les messieurs ont échangé leur théorie, elle est partie, et je dois dire, je n'y ai pas plus repensé que ça. Hein. C'était pour une sorte d'incongruité de Lacan de nous amener sa fille le soir comme ça. Et c'est vraiment un autre processus qui a conduit à un rapprochement entre nous deux. Il a fait... ça s'est passé à Guitrancourt, à la campagne, c'était relax, parce qu'il m'a invité très vite avant même, je l'ai connu en janvier, il m'a invité à passer le mois d'août entre Sylvia, sa femme, et lui. Bon, Judith avait milité pour le FLN, et donc elle enseignait la philosophie en Algérie. Avant, elle n'avait pas encore passé l'agrégation, mais elle avait interrompu ses études de philo pour aller enseigner la philosophie aux petits Algériens, algériennes. D'ailleurs, j'ai aujourd'hui une patiente dont la mère a été l'élève de Judith en Algérie. Donc j'ai passé ce mois d'août. Alors évidemment, c'était pas... Je suis rentré de temps en temps à Paris, aussi, quand même se distraire un petit peu. Mais j'ai été très heureux. J'avais la bibliothèque très considérable du docteur Lacan à disposition. J'ai pu lire C'est tiré à part. J'ai pu lui ranger sa bibliothèque, puisqu'elle était en désordre. Donc je lui ai dit... J'avais pas le moyen de lui repayer toute sa faveur qu'il avait de rester couché, déjeuner, dîner, etc. Et donc je lui ai dit, je vais vous ranger la bibliothèque. Et il a dit d'accord. Et donc en rangeant, j'ai pu lire certains des séminaires antérieurs, commencer à les lire, être fasciné par la richesse conceptuelle, comme nous disions, qu'il y avait. Et alors c'est l'année suivante, On a dû m'inviter aussi pour les fêtes. Où... Alors cette fois-ci, il y avait Judith de retour, il y avait Sylvia. Et dans ce contexte, eh bien, il s'est noué quelque chose entre Judith et moi. D'abord à l'insu des parents de Judith, enfin l'insu plus ou moins, puisque on a eu l'occasion de s'apercevoir que le docteur Lacan n'était pas tout à fait dupe. Et puis, bon, voilà. Mais évidemment, c'est dans le contexte. J'ai rencontré la fille du maître étant devenue l'élève du maître. Bon, c'est un grand classique de l'histoire. Ça doit être comme ça chez les Grecs déjà, les Égyptiens.
Et lui vous a choisi aussi.
Écoutez, il m'a choisi. Qu'est-ce que.
Là, je ne dis pas qu'il vous ait choisi comme gendre, hein. Il vous a choisi comme celui qui pouvait retranscrire les
Voilà,
séminaires,
exactement, pas
la
ni plus ni
parole.
moins. Les gens ont fantasmé de façon folle dingue là-dessus. Lacan, il spécialisait les gens. Quand il y avait des questions juridiques, c'était Roland Dumas. On appelait Roland et on discutait avec Roland Dumas. Quand c'était tel problème de mathématiques, eh ben, il avait son mathématicien. S'il était plutôt de la topologie, alors il avait le mathématicien topologue. Il avait son spécialiste de grec, il avait son contact à la Bibliothèque nationale pour qu'on lui sorte des livres qu'on ne sort pas d'habitude. Il était très organisé comme ça. J'admirais ça. Pianotait comme ça sur les gens. Bon. Et moi, j'étais visiblement, à un moment, ça s'est noué comme ça, et j'ai dit une fois, j'étais son menuisier en séminaire, c'est-à-dire, j'étais chargé. Il a même dit, c'était une sorte d'interprétation, que j'ai confié ces séminaires à quelqu'un qui tenait absolument à les mettre dans son français à lui. Il a dit au séminaire, en public. Bon. Il a senti que j'avais un désir, en effet, de faire ça. Et on a fait l'épreuve. On a fait l'épreuve sur un premier essai. Et ça lui a plu pour la première fois. Et je dois dire qu'il n'y avait pas de comparaison entre ce que je faisais et ce qu'avaient essayé les autres, qui mettaient leurs propres commentaires, qui coupaient des choses. Bon, alors après, il y a eu une surenchère, c'est-à-dire les gens auraient voulu que je garde chaque soupir de Lacan, chaque erreur de grammaire, chaque erreur de référence et tout. Ben, je n'étais pas là pour ça, j'étais au contraire pour le mettre autant que possible dans un français grammaticalement correct. S'il faisait une erreur, comme il arrive quand on fait des cours, il avait des notes, il n'avait pas rédigé ça, tapé à la machine. Donc, quand il y a une erreur de référence, j'étais plutôt chargé de la corriger. Bon, il m'arrive d'en ajouter, évidemment, sur ces milliers de pages. Mais
Pour
alors,
ajouter quoi?
ben, parfois, j'en rajoute une erreur hein, que Lacan n'a pas faite. C'est fatal. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, qu'on me signale ces erreurs, je les corrigerai. J'espère bien qu'il y aura. J'ai déjà donné pour l'un où vraiment il me manquait des documents. On me l'a signalé, pas toujours gentiment. J'ai fait une deuxième édition et j'aimerais pouvoir faire une deuxième édition de tous les séminaires de façon à ce que il y a des erreurs ici dans le grec, il y a des erreurs. Mais dans l'ensemble. Quand on pense que les cours d'Aristote, ça a été fait, ça a été enterré, déterré, fait 4 siècles après, etc., c'est d'une fiabilité quand même assez remarquable. Et à part ça, ceux qui veulent se reporter à ce qu'ils croient être le verbatim de la sténographie, mais ça circule dans Internet, les gens s'imaginaient que j'allais faire des procès, pas du tout, je les ai encouragés que tout ça soit sur Internet, parce que quand on lit ma version, on voit que je n'ai pas travaillé pour rien, que je ne passe pas des heures là-dessus pour rien. Il m'arrive de passer 6 heures pour un paragraphe et au début de m'arracher les cheveux en disant, mais je ne dois rien comprendre et je me sens très égyptologue, si vous voulez. Je prends un petit morceau, je rapproche d'un autre. Et ce que j'adore, c'est le moment où je comprends, moi, l'architecture de ce qui, au début, se présentait comme une sorte de jungle et de chaos.
Mais justement, là, on est au cœur de la problématique de Lacan. Effectivement, donc, il faisait ses séminaires, il énonçait par la parole. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'improvisation ou est-ce que tout était structuré? Car quand on lit les séminaires, on voit que par moments, il y a des associations, il y a des digressions, il y a des fulgurances. Comment vous procédez par rapport au mouvement de pensée? Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer dans la pensée de Lacan, c'est que quand il parle, il pense. Il y a une espèce d'instantanéité de la pensée dans le processus même de la parole.
C'est très juste, tout ce que vous dites, je contresigne. Je
Oui, mais
vois que
c'est.
je vois Laure Adler, que vous connaissez votre affaire en la matière, ou que vous aimez
Ah, mais je
Lacan.
lis Lacan, oui,
Voilà.
depuis longtemps.
Voilà. Alors,
Donc c'est très dur
voilà.
d'aller
Alors,
dans le séminaire.
si vous voulez, Solers disait dimanche dernier que Lacan pensait en parlant. Oui et non. Parce que le travail de fond, trouver les formules essentielles, les formules pivots, les pilotis, comme disait Stendhal, pour autre chose, enfin les pilotis et les formules, ce qu'il appelait les mathèmes, etc., il trouvait ça le matin avant. C'est dans ses notes. Bon, dans la semaine, mais enfin, je sais en tout cas qu'il s'y mettait, il se levait plutôt. Parfois, il recevait même le matin, ou même souvent, je crois, il faut demander à Gloria, mais il recevait, mais il continuait d'y penser, et ça se cristallisait dans les derniers moments. Il y pensait, certes, bien sûr, toute la semaine, etc., mais enfin, ça se cristallisait quand même au dernier moment. C'est ce qu'il a appelé lui-même la fonction de la hâte. Il a montré que il y a une certaine érotisation du temps qui se produit lorsque le temps se resserre. Et on sait bien les gens qui attendent le dernier moment pour, mais...
Les mauvais élèves, soi-disant.
Oui, soi-disant les mauvais élèves, mais bon, c'est comme ça. Et à part ça, il y a ceux qui sont parfaitement maîtrisés, qui rendent leurs copies, ou les écrivains qui rendent leurs copies. Mais je croisais BHL, Ave, mais pas de Guenille, mais Ave, qui me disait « ça fait 72 heures que je n'ai pas dormi » parce qu'il termine un livre de 600 pages et il faut qu'il le termine à bout de force, en quelque sorte. Bon, c'est sa méthode, si je puis dire ça. « Creative method », pour parler comme Francis Ponge. Alors, Lacan, d'un côté, donc, les bases étaient assurées, mais évidemment, et je connais ça aussi, moi, c'est un autre... À un moment, il est porté par la façon dont il le dit, par, en effet, il peut se lancer dans une digression qui n'est pas préparée, il y a une association qui se présente, ou, au fond, cherchant une voie de passage pour faire comprendre, et regardant tel ou tel visage, il se rend compte que là, il n'est pas compris, etc., il cherche une autre formule, et bon. Mais ceci dit, les gens qui ne comprenaient pas s'imaginaient que c'est des vaticinations, que Lacan se lance dans des trucs, alors que c'est d'une rigueur. Il y a une, même quand ça se présente d'une façon foisonnante, ou parfois des développements qui ont l'air romantiques ou baroques, c'est d'une rigueur de fond, moi, qui continue de me stupéfier. Les gens se demandent comment je m'intéresse encore à faire ça alors que je fais ça depuis si longtemps. Mais écoutez, j'étais là avec le dernier séminaire, Le désir et son interprétation, dont j'avais donné une première version pour une revue américaine, donc je ne m'étais pas cassé la tête, il fallait le faire très vite à l'époque, parce que Lacan avait promis un article qu'il n'avait pas fait, et à la place, on avait convenu que j'allais donner quelques leçons de ce séminaire. Donc j'avais dû les faire très vite, et donc tout ce qui était problématique, je ne travaillais pas. Donc là, je m'étais gardé ça pour la bonne bouche. Vraiment, un des problèmes que j'avais, plus j'avançais vers le dernier volume des 25. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que j'ai une telle jubilation à faire ça. Les gens n'imaginent pas. À restituer, à sortir de la gangue, c'est vraiment... Et qu'à la fin, on taille le diamant, si vous voulez, que ça brille de tous ses feux, que moi-même, au début, je ne comprends pas la page, je ne comprends pas... Et que je vois petit à petit comment les facettes du diamant, si je puis dire, s'ajustent les unes aux autres et que finalement, ça resplendit, si je puis dire. Je vis ça comme ça, hein. Que, évidemment, je suis très, très attaché à ça. Alors, je me disais, évidemment, je peux donner une deuxième édition de tout et reprendre tout depuis le début. Et voilà, je pense que, évidemment, je ne vais pas faire que ça, mais que je le ferai.
Vous avouerez qu'il y a des moments où il y a des zones obscures, où nous-mêmes, nous sommes placés, peut-être Lacan le voulait-il, d'ailleurs, devant des interrogations auxquelles nous ne pouvons pas répondre.
Sur le texte.
Oui.
Écoutez...
Vous êtes peut-être tellement dedans que vous comprenez tout, vous avez tout déplié dans les significations.
Tout à fait, au début, j'ai progressé. Évidemment, je ne fais pas ça maintenant comme je faisais au début. Au début.
Donc il y a un savoir, comprendre Lacan qui prend des étapes initiatiques finalement, qui passe par des étapes.
Mais oui, si vous voulez, moi...
Comme quand on écoute un air de Mozart.
Mais oui, tout à fait. Et quand on l'interprète, on le joue pas de la même façon quand un artiste le joue pour la première fois. Si vous voulez, moi, au début, quand j'ai fait le premier séminaire, bon, j'avais suivi ces séminaires depuis... Mais maintenant, j'ai enseigné sur Lacan. J'ai transmis Lacan à mes étudiants à Paris. Je l'ai transmis parce que l'espagnol m'est revenu, que j'avais appris à l'école. Je l'ai transmis dans une grande partie de l'Amérique latine, en espagnol. J'ai pu le faire un moment aux États-Unis, puis je me suis lassé parce qu'il n'y avait que les universitaires qui s'y intéressaient et pas les cliniciens. Bon. Et donc, j'ai passé le relais à mon élève Zizek, qui a obtenu, lui, son succès à sa façon. Donc, Si vous voulez, je vis avec ça depuis maintenant. J'ai rencontré donc Lacan en 64, j'avais 22 ans. Je vis avec ça depuis une paye, hein, depuis plus de 40
ans. Vous n'en avez pas ras-le-bol ?
Mais non, parce que Lacan disait que les vérités, ça j'aime beaucoup cette phrase, peut-être que quelque chose de lui a inspiré, je ne sais pas. Il disait les vérités c'est comme des solides, c'est-à-dire ça a des faces. Et ce qui est formidable avec lui, c'est que quand je reprends, je commente une nouvelle fois tel ou tel passage, je ne vais jamais me reporter à ce que j'ai dit avant. Je le reprends au point où je suis et je vois d'autres facettes qui brillent. Ça, c'est étonnant parce que moi, par exemple, j'ai une pensée très linéaire. C'est-à-dire, c'est vraiment... ce que j'ai aimé, moi, c'est les méditations de Descartes, traduites, traduites par Guéroux, c'est-à-dire présentées comme un pas, un autre pas, etc., et sur un chemin tout droit. Alors, je fais des digressions sur le chemin tout droit, mais c'est quand même tout droit. Alors que Lacan, c'est une sorte de fileuse. C'est la fileuse au bleu de la croisée. Là, y a plusieurs fils qui se mêlent toujours. Et donc, selon l'humeur où on est, même, c'est dans un conte pour eux. C'est Podane qui a eu une robe couleur de temps. Eh bien, le séminaire a une... Vous voyez, ça, c'est instantané. Le séminaire a une robe couleur de temps.
Bah justement, le séminaire passe le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de désaffection. En tout cas, on en parlait beaucoup moins depuis 8-10 ans de la pensée de Jacques Lacan. Et là, je pense qu'il y a toujours eu des gens qui ont toujours lu Lacan et pour qui Lacan est indispensable, même si, comme moi, on ne comprend pas tout. Mais c'est très important de lire Lacan parce que c'est vrai que ça vous emmène ailleurs. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de retour à Lacan. Est-ce que vous le ressentez,
Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas quitté Lacan, donc je ne l'ai pas. Mais je le sens. D'abord, on a pâti à un moment donné... Il y avait moins de jeunes. Je me disais, où il y a une génération qui nous manque. Et il y a une génération qui nous manque, dans les associations psychanalytiques, en tout cas dans l'école de la cause freudienne, dont je fais partie. Et on a vu arriver des jeunes de nouveau, il y a environ 5 ans, c'est-à-dire des moins de 30 ans, et qui venaient, qui ne s'intéressaient pas à toutes ces vieilles histoires qu'on a traînées pendant une époque, pour qui c'est beaucoup simplifié. Il y a Lacan, qu'est-ce qui reste de tous ces des remue-ménages de l'époque et tout. Il reste Lacan. Bon, et donc ils ont eu un rapport simple avec Lacan. C'est-à-dire ça les intéresse. Pour eux, c'est un grand homme. Et évidemment, moi, par exemple, déjà pour Freud, je sais que pour moi, c'était Freud, Homer, etc. C'était un peu dans la même classe de personnes quand je lisais Freud à 14 ans. Eh bien, eux, je lisais les histoires de cas parce que c'était comme des romans policiers. Et eux, ils ont aussi cette simplification. Et donc, on respire mieux. On laisse de côté les miasmes de l'histoire. Il y a quand même des histoires affreuses autour de la vieillesse de Lacan, de sa mort. Ça roule encore. Des remugles sont encore là. Mais pour cette génération, c'est terminé, c'est réglé. Et c'est porteur. Et moi-même, j'ai commencé il y a 2 ans maintenant. Je fais un séminaire. Et maintenant, c'est la 3e année qui commence. Je fais un séminaire spécialement pour des jeunes, privés, qui a commencé dans mon appartement. On s'est déplacé seulement parce qu'il y a des meubles qui sont arrivés qui ont bloqué une pièce. Mais on a commencé dans mon salon avec une trentaine de personnes, dont la très grande majorité avait moins de 30 ans, avait 25 ans, etc.
Zut alors, je ne pourrais pas m'inscrire.
D'ailleurs, j'ai fait
la... Vous parlez de quoi alors ? Vous parlez
d'un... On parle de Lacan, ça dure une après-midi entière. On parle de Lacan, il y a des exposés. Alors, ce qui m'avait retenu à un moment, c'est que j'ai fait la liste des gens. Je voulais des gens qui sont à l'aise avec moi, qui n'ont pas peur de moi.
Pourquoi vous faites peur ?
Ah, certains, je fais peur, bien sûr, certains je fais peur, mais là, je voulais prendre des gens à qui je ne fais pas peur, qui ne croient pas ce qu'on a colporté sur moi de folie, qui savent que je suis comme je suis, bon, que parfois je tape du poing sur la table, c'est vrai, mais que je suis amène, gentil, attentif, etc. Bon, toutes les qualités que j'ai, n'est-ce pas? Alors, le seul point, c'est que ce qui m'a embêté, c'est qu'il y avait trois quarts de filles et un quart de garçons.
Ah bah, c'est une bonne nouvelle!
Oui, mais au début, si vous voulez, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ce gynécée? De quoi je vais avoir l'air?
Est-ce que c'est lui qui a réhabilité la jouissance féminine en opposition avec Freud?
Bah, bon, écoutez, peut-être que je suis vieux jeu, mais enfin, pendant un mois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, je me suis rallié à l'idée, je leur ai dit d'ailleurs que bon, c'était un fait que cette profession se féminisait et que la psychanalyse serait aux mains des femmes dans pas longtemps, que nous étions déjà des diplodocus, qu'il fallait qu'ils nous soignent parce que nous étions déjà une espèce en danger, les hommes psychanalystes. Et je me suis réconcilié avec cette idée. Mais enfin, il y a eu un petit temps logique, si vous voulez. Il a fallu que, quand j'ai fait la liche, je n'en croyais pas mes yeux. Et c'était une réalité. Regardez aujourd'hui, par exemple, la revue Le Diable, probablement. Bien sûr, il y a quelques garçons, mais enfin, c'est quand même mené par les filles.
Hein. Bah, vive les filles.
Mais vive les filles, je dis pas le contraire.
Et tout à l'heure, vous avez parlé...
Ce séminaire, vous voyez, le nom que j'ai donné à ce séminaire, je me suis tellement réconcilié avec ça que j'ai donné à ce séminaire le nom de Diva.
Mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'exploration, du décryptage des textes que vous faites depuis maintenant très longtemps pour l'établissement des séminaires, Jacques-Alain Miller. Vous avez parlé de votre connaissance et de votre amour pour Sartre et pour d'autres intellectuels. Et vous le qualifieriez comment, justement, Lacan, à travers cette constellation d'intellectuels? Qu'a-t-il inventé? Il a inventé, évidemment, une autre clinique, un autre type de psychanalyse, mais il a inventé aussi une autre forme de pensée.
Lacan, pour moi, c'était, si vous voulez, un trait distinctif, c'était le plus sérieux, même le seul qui était sérieux. Deleuze, par exemple, quand il a fait son anti-Oedipe, ça se termine, c'est une boîte à outils, demain je dirais peut-être autre chose, etc. Très bien. Donc c'est un jeu, c'est comme le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. On joue comme ça, mais demain on va jouer autrement. Donc virtuosité, mais gratuité aussi. Barthes, justement, alors lui, j'adorais ça, mais c'était... Selon la pertinence qu'on prend, on obtient tel ou tel résultat. Donc, même un jour, j'ai fait un exposé devant lui, quand il s'agissait de lui rendre hommage à Cerisy, je crois. C'était devant lui. J'ai fait un exposé où je le présentais comme celui pour qui il n'y a pas de réel, où tout est une architecture de semblant, comme il l'a montré pour le Japon, l'Empire des signes. Tout est semblant. Et je trouvais ça très beau. Mais moi, je croyais qu'en même temps, il y a du réel. Foucault, il avait aussi...
Dieu sait que Lacan s'est attaqué au problème du réel.
Le réel, voilà. Et si vous voulez, Foucault, par exemple, il fait les mots et les choses, il choisit, il ordonne tout ça, finalement, tout le mouvement des mots et les choses est fait pour aboutir à Saussure, Lévi-Strauss et Lacan. Et donc, il réordonne tout rétroactivement par rapport à ça. Et c'était sa méthode, très active. Par exemple, à un moment, on s'est occupé des prisons. C'est moi qui suis allé lui proposer... je me souviens, parce que nos camarades étaient en prison, Gessmar, etc., je suis allé trouver lui et Daniel Defer, et je leur ai dit, aux États-Unis, il y a des commissions d'enquête du Sénat qui peuvent convoquer des gens. En France, ça n'existe pas. Alors, il faut que ce soit les intellectuels qui fassent ça. Et faisons quelque chose sur les prisons. Il m'a dit, bon, je vais réfléchir. Et 15 jours après, il a inventé le groupe, le GIP, le groupe de prison. Et nous avons, voilà... Et c'était en réponse à ce que je proposais. On a fait deux livres, d'ailleurs, deux petits livres, à champ libre, je crois. Un qui était fait par Foucault et Defer. Il y avait deux livres. Un, Enquête dans 20 prisons, et l'autre que je faisais avec mon ami François Rugnot, Enquête à Fleury-Mérogis. On a sorti les deux petits livres, qui étaient les premiers répondant à cette idée.
Mais Lacan, il n'a jamais été engagé.
Mais si vous voulez, là, à partir de là, ça a donné l'idée à Foucault, de faire en quelque sorte le son surveiller et punir. C'est-à-dire, à partir de la chose actuelle, il reconstruisait la généalogie. C'était formidable. Mais on voit bien que c'était chaque fois dépendant du point où il en était à un moment donné. Bon, donc ça pouvait varier. Et heureusement qu'il n'a pas reconstruit l'histoire du monde à partir de la fascination qu'il a eue à un moment pour Khomeini, si vous voulez. Donc, il ne l'a pas fait, mais il y avait ce jeu, c'était des joueurs. J'aime les joueurs. Mais Lacan, il ne jouait pas. Lacan, malgré, avec ses fantaisies, avec les cris qu'il poussait, avec son architecture vestimentaire qui lui était propre et tout, il ne jouait pas. Il avait rapport dans la clinique, bon, avec ceux qui insistent, ceux qui ne bougent pas d'une douleur chez un sujet, que vous avez un traumatisme de jeunesse et les gens, 20 ans après, 40 ans après, reviennent dessus. Il faut être passé par là. À l'époque, je n'étais pas passé par là. Maintenant, je suis analyste depuis assez longtemps pour avoir la notion de ce que c'est ce réel-là. Ce n'est pas le réel de ce qui arrive dans la vie qu'on peut oublier complètement. Ou quand je retrouve une amie que je n'ai pas vue depuis 13 ans, on se retrouve exactement comme on s'était quitté et on reprend la conversation. Parce que d'un certain point de vue, tout ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. Et pour les gens, le réel, ce n'est pas ce qui se passe, c'est ce qui s'est inscrit à un moment et qui insiste d'une telle façon que ça perturbe absolument toute leur vie affective, intellectuelle, etc. Donc là, vous avez une notion de réel. Ou quand vous avez le psychotique qui est persuadé qu'à un moment, en effet, on l'a regardé de travers et que ça voulait dire qu'on allait l'emmener en camp de concentration, et que, alors vous arrivez à dégrossir le délire, ça se calme, etc. Bon, et ce point-là ne bougera jamais de sa vie. Donc là, vous avez une notion du réel, de ce que c'est le réel pour quelqu'un, et là, il n'y a pas le jeu. C'est quand il y a du signifiant qu'il y a du jeu. Avec le signifiant, on peut tout démontrer. Lacan disait, donnez-moi n'importe quel mot, je lui donnerai n'importe quel sens si vous me permettez de parler aussi longtemps que je veux. Il se présentait lui-même que c'est la puissance sophistique du langage. Le langage, ça permet de mentir, le langage, ça permet de... et ça ne fait que mentir d'une certaine façon. Bon. Et il y a autre chose. Il y a quelque chose qui se déprend du langage, quelque chose qui détache du langage, et que vous essayez de réduire par le langage dans la psychanalyse, et c'est là que vous voyez que vous avez affaire à un morceau qui n'est pas du même genre. Et que parfois, c'est une parole, en effet. On me racontait ça hier, enfin, quelqu'un qui, un parent avait pu dire « tu ne pourras jamais faire ça », qui n'avait pas pris ça au sérieux, mais qui se rendait compte de ça, que, en effet, ça avait fonctionné, qu'il ne pouvait pas faire, parce qu'il y avait eu cet interdit à un moment donné. Bon. Alors, Lacan, il était en contact avec ce réel, et une fois, je lui avais demandé, d'ailleurs, de définir la clinique, j'ai raconté ça au séminaire de la règle du jeu. J'avais besoin d'une définition de la clinique parce que je créais une section clinique et il me fallait une définition. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me fabriquer une définition de la clinique? Et il a réfléchi, bon, il m'a donné une feuille avec une phrase, la clinique, c'est le réel en tant que l'impossible à supporter. Je l'ai donné comme de Lacan, mais pas extrait d'un texte, puisque c'était vraiment fait pour moi. Bon. Et c'est très beau comme définition. Et ça lie le réel avec la fonction de l'impossible. Avec le signifiant, tout est possible. On peut tout dire, c'est ce qu'on voit. Je ne sais pas, là, on va rentrer dans l'ère des procès prochainement. Bon. Mais comme disaient les anciens, à toute cause, il y a deux côtés. Vous pouvez être sûr de votre bon droit, mais on peut toujours plaider en face. Il faut qu'il y ait un autre avocat qui plaide le contraire. On peut toujours, avec le signifiant, c'est plastique, c'est élastique. Bon, il faut simplement, c'est simplement dans la logique formelle qu'on essaye de rigidifier le signifiant. Et donc, on peut, si on se situe à ce niveau-là, on joue. Mais Lacan, c'était sensible qu'il visait un autre point chez le sujet. Le point où on rigole pas.
Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement. Ce sont les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel.
Benoît Jacquot, nous venons d'entendre Jacques-Alain Miller, puis la voix de Jacques Lacan, dans cette émission que vous avez fait tous les deux avec Jacques-Alain Miller, Télévision, où Jacques Lacan vient de dire qu'il dit la vérité. Est-ce qu'il disait la vérité?
Il dit, pour commencer, « je dis toujours la vérité », mais il continue immédiatement, « pas toute », parce que toute la dire, on ne peut pas.
Comment comprenez-vous, Benoît Jacquot, qu'il y ait des phrases comme ça à l'intérieur des discours de Jacques Lacan qui ont été prononcés dans ses séminaires, dans l'émission que vous avez faite dans Télévision, qui soient devenues comme des espèces de concepts opératoires ou des espèces de doudous magiques qu'on se répète pour essayer d'en sonder le sens, comme s'il éclairait encore notre époque aujourd'hui en 2011, non?
C'est une pensée qui sans cesse se cherchaient, ou plutôt cherchaient à se trouver et à trouver, et qui trouvaient, parce qu'elle n'allait pas de recherche en recherche dans la complaisance de la recherche et de la question, mais était affamée de réponses et de trouvailles. Ces trouvailles souvent donnant lieu, sans doute pour lui-même aussi, comme à un artiste, comme à un écrivain ou à un peintre, pour un écrivain ou pour un peintre, à des surprises. Trouvailles, surprises. Vous savez, comme Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Il aimait beaucoup citer cet adage-là. Et donc, ces trouvailles qui surgissent littéralement à mesure que sa pensée s'énonce, produisent des formules plus ou moins paradoxales et qui immédiatement, pour reprendre une expression qu'il employait à mon égard d'ailleurs, font mouche. Je dis à mon égard parce qu'il m'a fait l'honneur et le plaisir d'écrire un texte, il n'avait jamais fait ça, sur mon premier film. Ça s'appelait L'assassin musicien. Et son texte s'intitulait Faire mouche. Voilà. Et c'est quelqu'un qui faisait mouche, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire mouche? Ça veut dire taper dans le mille, qui au détour d'un cheminement extrêmement et pour beaucoup excessivement complexe, tombait sur quelque chose, justement, qui se formulait, c'est même pas qu'il le formulait, ça se formulait, et ça se formulait de telle façon que ça restait pour ceux qui l'écoutaient à l'instant, et ça reste manifestement à travers le temps.
Comment s'est institué le dispositif de télévision? Car quand on le regarde encore aujourd'hui, effectivement, il se passe quelque chose. Au moment même où nous le voyons, il se passe beaucoup de choses. Il se passe déjà le fait que nous voyons que vous filmez une personne, Jacques Lacan, en train de parler, mais pendant qu'il parle, il pense. Il y a une simultanéité que vous arrivez à capter grâce à votre caméra. Et d'autre part, il y a deux moments dans télévision. Il y a un moment où il parle et puis un moment où par moment, par instant, la voix de Jacques Alain Miller vient comme chapitrer les différentes séquences de Lacan. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est passé, Benoît Jacquot?
D'abord, moi j'étais très jeune, j'avais tout juste 20 ans, pas loin. Jacques Alain Miller n'était pas beaucoup plus âgé. Une fois admise cette idée de consacrer un film à Jacques Lacan pour la télévision, au lieu d'aller le voir directement comme beaucoup d'autres auraient fait, j'ai appelé Jacques Alain Miller, que je ne connaissais pas, mais parce que je savais qu'il avait, ça se lisait, qu'il avait toute la confiance du docteur Lacan, j'ai appelé Jacques Alain Miller pour lui demander ce qu'il en pensait, un, et deux, si ça l'intéresserait de faire ça, voilà, avec moi. La façon que j'ai eue de le lui demander, le fait que je le lui demande, a poussé, je crois, Jacques Alain à appeler, comme il le fait, et un peu à la façon du docteur Lacan, immédiatement Jacques Lacan, pour lui en parler, lui voir ce qu'il en penserait. Et presque immédiatement, il m'a rappelé pour me dire « ça marche, il attend que vous l'appeliez ». Donc j'ai appelé à ce moment-là Lacan, qui lui, ça n'avait même pas fait c'était immédiat, il m'a à peine dit bonjour, il m'a à peine demandé qui j'étais, il m'a dit « c'est vous, rappliquez ». Voilà. Donc je me suis trouvé une demi-heure après rue de Lille, toute fin d'après-midi, c'est-à-dire vers, je dirais, 20 heures, dans sa salle d'attente, qui était bondée, où il y avait quelques dizaines de patients qui attendaient encore. J'ai été de surprise en surprise là aussi, parce que je voyant cette petite foule, je me suis demandé comment, à quelle heure et quand et quoi, et si ça allait être au milieu de la nuit qu'il allait finir par me recevoir et m'entendre. Sa fidèle assistante Gloria m'a dit non, ça va pas être long, ça ne va pas être long. Et je me suis assis parmi les patients, bien nommés là à ce moment-là, et j'ai vu Lacan au bout de, oui, en effet, 5-10 minutes, sortir de sa pièce, de son petit cabinet, et avec une patiente, je crois, qui venait de finir sa séance. Il a regardé la salle et les patients, il m'a immédiatement capté, bon, ça c'est naturel, ça n'appartient pas à un flair magique, et il m'a dit venez, comme ça, avec une espèce de signe, et immédiatement regardant l'assistance, c'est terminé. Alors j'ai entendu un cœur de lamentation, dont voilà, ça j'en ai un souvenir très très précis. Et ça a commencé là, comme ça, c'est-à-dire selon un protocole constamment déroutant. Voilà. Et je pense que ça appartient au geste à la fois personnel et clinique du docteur Lacan. Voilà. Dérouté.
Et aujourd'hui, vous relisez Lacan, Benoît Jacquot ?
Relire, oui, ça m'accompagne. Ça m'accompagne, oui, je peux le dire. D'abord, je suis extrêmement admiratif et très attentif au travail absolument exceptionnel que fait Jacques-Alain Miller pour éditer ses séminaires. Ce travail d'édition qui est je n'ai pas une connaissance absolue pour moi c'est sans pareil, et ça témoigne d'une fidélité, d'une constance, d'une rigueur, d'une passion aussi qui me lie réellement à Jacques-Alain, en dehors même de l'affection que je peux avoir pour lui et de l'amitié que j'ai pour lui depuis qu'on a fait ça, c'est-à-dire depuis maintenant un bon bout de temps.
Je rappelle que cette émission de télévision est devenue un livre que les auditeurs peuvent lire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la cassette. Est-ce qu'elle est devenue un DVD ? Est-ce qu'elle est disponible ? Parce que c'est vraiment un document incroyable.
Alors, le film, les deux films, puisque c'était deux fois 50 minutes, je crois, qui sont passés, selon aussi toute une épopée, parce qu'on a eu quand même un certain mal à faire passer ça comme le voulait le Lacan aux heures de plus grandes écoutes sur la chaîne la plus écoutée. Et très très vite après l'avoir fait. Alors ça s'appelait Psychanalyse, les deux films, Psychanalyse 1 et Psychanalyse 2. Et c'est Jacques-Alain qui, dès lors qu'il a été question de recueillir ses films, enfin le texte de ses films, et de les publier, appeler ça télévision, très simplement. Voilà. D'un côté psychanalyse, de l'autre télévision. Et alors, bon, pour répondre, pardon, à votre question, chère Laure, je vais faire comme Lacan, chère Laure, le DVD, j'en entends parler depuis des années. Il a été question à un moment que la maison Gallimard les fasse. Ça a été même assez proche de se faire. On devait faire avec Jacques-Alain avec Jacques-Alain Miller s'occuper de l'édition de ce DVD. Et puis depuis 2 ans, c'était ça il y a 3 ans, depuis 2 ans je n'en entends plus parler. Mais en effet ça me paraît assez, moi aussi, étrange qu'il n'y ait pas le DVD de ça. Mais bon, ça tient peut-être, je ne sais pas, il faudrait demander au seuil, à qui, je ne sais pas. Il faudrait peut-être s'en occuper, surtout, je devrais.
Merci, cher Benoît.